Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, c'est la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui commence. Alors ce soir je serai tout seul, il y a José en studio, mais je le vois à peine. Et Jean-Mathias est parti en vacances et il nous fait des bisous. Voilà, c'était son mail, je suis en vacances, bisous. Donc ce soir je vais vous parler un peu tout seul d'un livre que j'ai lu récemment et qui m'a semblé intéressant et un petit peu dans le thème des choses qu'on avait abordées cette année. C'est un livre qui vient d'être publié, enfin qui a été republié chez Libertalia, qui avait été publié en 2012-2013 chez un autre éditeur, chez Inculte en 2013, qui a été réédité en 2016 chez Libertalia et qui s'intitule Les historiens de garde. Ça a été écrit par William Blanc, Aurore Chéry et Christophe Nodin. On avait chroniqué il y a quelque temps un bouquin justement de Blanc et de Nodin aussi qui parlait de la fameuse et plus ou moins mythique bataille de Poitiers avec Charles Martel arrêtant les musulmans avec son marteau là. Enfin, sauf que c'est pas du tout ça évidemment. Alors là, les historiens de garde, c'est un petit peu différent. Le livre est en sous-titre donc de Laurent Deutsch à Patrick Buisson, La résurgence du roman national. Alors, c'est un livre plutôt intéressant parce que, justement, c'est une tentative faite par des historiens professionnels pour essayer de, comment dire, de remettre les pendules à l'heure dans ce qui se passe du côté des historiens, enfin, historiens entre guillemets médiatiques. Quand on est un petit peu spécialiste d'une discipline quelconque, on s'aperçoit assez rapidement qu'en règle générale, ceux qui parlent de notre discipline dans les grands médias sont des incompétents. Bon, et en histoire, ça rate pas. Donc, sauf que là, en fait, le problème est un peu plus profond. Alors, donc, je vais essayer de vous décrire là dans les minutes à venir. Alors déjà le titre, les historiens de garde, je pense que ça mérite quelques explications parce que tout le monde n'a pas les références qui sont sous-entendues dans ce titre. C'est d'abord et avant tout une référence à Nizan, Paul Nizan, qui a écrit dans les années, je crois, 30, je sais plus, un livre qui s'intitulait « Les chiens de garde ». Alors, qui était Nizan? C'était un communiste, un philosophe, un journaliste aussi, contemporain de Sartre, un ami de Sartre à l'époque. Et dans ce livre, Les chiens de garde, il fait la critique des philosophes universitaires qui se prétendent au-dessus de la mêlée, alors qu'ils défendent en réalité les intérêts de la classe dominante. Il semble qu'il vit surtout des gens comme Bergson, un grand philosophe français du XXe siècle, ou Brunschvig, un grand professeur. Donc ça, c'est une première chose. Donc viser les gens qui, au nom d'une position dans le champ du savoir, prétendent être neutres, alors qu'en fait, ils défendent le pouvoir. Bon. Mais c'est aussi une référence à un bouquin beaucoup plus récent de Serge Halimi, qui est maintenant rédacteur en chef du Diplo, du Monde Diplomatique. Et Serge Halimi, lui, il avait publié Les Nouveaux Chiens de Garde. Mais cette fois-ci, ça portait plus sur les philosophes de grandes institutions, ça portait sur les journalistes. Or, les journalistes, finalement, maintenant, souffrent un peu de la même maladie que les philosophes des années 30 dénoncés par Nizan. C'est-à-dire que c'est des gens qui prétendent, là encore, être neutres pour mieux cacher leur soutien effectif au pouvoir politique. Alors, vous qui écoutez Radio Libertaire, pour vous, ça, c'est peut-être vraiment pas une révélation. Simplement, pour beaucoup de gens, les journalistes sont neutres, le pouvoir de l'argent n'a pas pris sur eux, et enfin bon, c'est une opinion qui est relativement répandue dans certaines classes sociales. Et bon, les historiens de garde, eux, ben justement, sont situés un petit peu au croisement de ces deux classes qui étaient dénoncées par Nizan et par Halimi. C'est à la fois, souvent, les historiens de garde, donc c'est à la fois des universitaires et des journalistes. Et ils viennent soit des circuits académiques ou professoraux, comme quelqu'un comme Franck Ferrand, par exemple, si vous tombez sur ce nom-là, ou Dimitri Casali, qui ont été professeurs dans l'éducation nationale, d'accord, professeurs d'histoire, soit ils viennent du spectacle lui-même, et là c'est le fameux Laurent Deutsch, qui est analysé dans ce bouquin, ou encore Stéphane Bern, qui prétend être historien, et qui n'arrête pas d'écrire des livres soi-disant d'histoire, en particulier sur les têtes couronnées. Et de ce point de vue-là, les historiens de garde, alors je crois que j'ai une définition dans le bouquin qui est assez intéressante. Voilà, donc je vous lis le livre, ce sont ces journalistes, philosophes médiatiques, animateurs, enseignants ou éditorialistes qui tentent de se faire passer pour des résistants à une pensée unique, l'historiquement correcte, qui prônerait une histoire multiculturelle et différentialiste, contaminée par le paradigme des droits de l'homme. Les historiens de garde font croire qu'ils sont minoritaires et persécutés, mais s'estiment garants de la défense d'une vérité historique qu'ils se doivent de transmettre au grand public, abrutis par des professeurs gauchistes et des médias complaisants envers certaines revendications considérées comme communautaristes. Donc c'est bien, les historiens de garde nous apprennent finalement que la France n'est pas un pays raciste. Alors moi je suis très très surpris, je vous avoue, et que finalement c'est le gauchisme qui domine dans l'éducation nationale. Bon, c'est bien, ça me rassure, finalement, je me dis que on a des chances de pas finir dans un régime quasi-fasciste, c'est bien, c'est cool. Voilà, alors il y a aussi, donc je vous disais, soit les historiens de garde sont soit des profs, soit des acteurs, comme Laurent Deutsch, soit des journalistes, comme un type qui s'appelle Sevilla. Bon. Alors, c'est quoi la différence avec les anciens chiens de garde, dénoncés par Nizan et Halimi? C'est que nos historiens de garde ne prétendent pas forcément être neutres, du moins pas toujours. Ils prétendent au contraire toujours défendre la véritable histoire de France contre une institution qui la fausse, évidemment. Au nom des droits de l'homme, enfin de ce qu'ils appelleraient le droit de l'homisme, au nom de quoi d'autre encore, du politiquement correct. c'est-à-dire le fait d'essayer d'à peu près respecter les gens dans le discours. Quoi d'autre encore ? Enfin bon, toutes ces choses-là. Et donc, ils vont se présenter donc comme les défenseurs de la véritable histoire de France contre une institution qui est fausse, et ils se voient comme des opposants minoritaires en possession de la vérité. Alors c'est d'ailleurs, il y a un truc remarquable, d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde ou presque, dans le monde politique ou dans le débat des idées un peu publiques, prétend appartenir à cette catégorie minoritaire en résistance contre le pouvoir. On se demande quand est-ce que des gens vont encore oser se réclamer de la majorité. Bon, ça fait partie des mystères. Alors ça pose deux problèmes, qui en accouche d'un troisième. Premier problème, il me semble que c'est celui de la vérité en histoire. Alors ça, bon, j'y reviendrai, c'est un problème relativement important. Deuxième problème, c'est le problème du rapport des institutions étatiques à cette histoire, et à ce qu'on cherche comme vérité dans l'histoire. Et enfin, ça pose, ces deux problèmes conjugués, pose le problème du but de l'histoire comme discipline historique. C'est-à-dire, est-ce que l'histoire a pour but la connaissance, c'est-à-dire savoir ce qui s'est produit dans le passé pour mieux comprendre, en gros, les choses, ou est-ce que l'histoire doit être au service d'une idéologie quelconque, d'une certaine manière, qui peut souvent être en lien avec ce que cherchent les institutions étatiques. Donc, ces deux problèmes qui sont posés par le bouquin, de ce point de vue-là, je le trouve assez intéressant. Parce que c'est des problèmes que souvent on ne pose plus pour tout un tas de raisons, ou qu'on pose moins. Alors, premier point, le problème de la vérité en histoire. Bon, c'est un problème qui est énorme, évidemment je ne vais pas le traiter, parce qu'on pourrait faire une série d'émissions, de 20 émissions, sans arriver au bout, donc je vais bâcler en quelques minutes. Donc premier problème, ça va être que, bon, évidemment officiellement, tout le monde est un ami de la vérité. Personne ne va vous dire, je raconte que des conneries, je dis que des choses fausses, et je m'en réjouis. Donc tout le monde prétend à la vérité. Le souci c'est quoi ? C'est que si en science, dans les sciences physiques, ou en biologie, on arrive de temps en temps à savoir à peu près ce qui est vrai, essentiellement grâce à la méthode expérimentale, c'est loin d'être un processus simple en science, science dure, dites. Mais alors en histoire, c'est encore plus compliqué. Puisque en histoire, on peut pas faire d'expérience, on n'a pas un accès direct aux faits historiques, pour une raison simple, c'est qu'ils ont passé. Donc comment est-ce qu'on va vérifier des faits en histoire ? Ben, on va essayer de les vérifier à travers les documents dont on dispose et les monuments qu'on a pu retrouver. Les restes archéologiques ou autres. Et ce qui fait que, évidemment, les historiens sont bien embêtés avec cette histoire de vérité, et que très très souvent, ils ont tendance à dire, bon, nous, ça c'est une question qu'on laisse aux philosophes, nous, qu'est-ce qu'on a ? On a des méthodes, on a des documents, et on va essayer de les comprendre, pas de les recracher tels quels, on va essayer de les analyser, de les critiquer, parce qu'on peut penser que le type qui a, la personne qui a produit le document était elle-même, avait elle-même certains intérêts, etc., etc. Donc, bon, les historiens, de ce point de vue-là, ils ont tendance à essayer de mettre de côté la question philosophique de la vérité, et on les comprend, parce que c'est plein de choses trappes, et c'est pas leur objet. Mais en même temps, personne ne peut réellement mettre de côté ce souci de vérité en histoire. Quoi qu'on en dise certains. Parce que si on le fait, on obtient quoi ? On obtient soit le négationnisme de Faurisson, ou du moins, on n'a plus aucun moyen de le contrer. Si Faurisson veut raconter que les chambres à gaz n'étaient pas là pour tuer des gens, pour tuer les juifs en particulier, mais pour faire je ne sais quoi, si on estime qu'il n'y a pas de vérité en histoire, comment est-ce qu'on le contre ? Alors qu'il raconte absolument n'importe quoi. Donc on est obligé, face à ce genre de bonhomme, de ramener un souci de vérité. Voilà, on a des preuves, ce que tu dis est faux. Donc, soit on obtient, on est sans défense face au négationnisme d'un Faurisson, soit on a des mauvais romans. Voilà, l'historien qui fait un mauvais roman à partir de l'histoire, et qui invente. Soit on obtient, alors on peut aussi obtenir un autre truc un peu rigolo, c'est du Paul Venn. Paul Venn qui était entier de Foucault au Collège de France et qui défend une espèce de foucaldisme bizarroïde, du point de vue de la méthode, dans un bouquin qui s'appelle Comment on écrit l'histoire, et qui produit des ouvrages historiques tout à fait académiques. Alors concrètement, ça donne un truc, c'est que dans un bouquin, il dit « l'histoire n'est qu'un genre de fiction », et que dans un autre bouquin, consacré cette fois-ci à des objets historiques, il va écrire « en réalité, les Romains, gna 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 ». Bon. Comme quoi, c'est pas tout de prêcher une méthode. Après, on se heurte à d'autres soucis. Alors, y a ce souci-là, et donc bon, on peut... Ça, c'était pour vous montrer que la vérité, on peut vraiment pas du tout... enfin, ce problème-là, en tout cas, c'est un problème qu'on peut pas mettre de côté, je pense, en tout cas. Et il est posé, justement, dans le bouquin donc, « Les historiens de garde », par Blanc, donc Chéri et Nodin. Il revient assez souvent, parce que justement, il voit bien que c'est un des enjeux. En même temps, on voit bien aussi qu'ils veulent pas rentrer dans ce débat-là, à proprement parler. Et eux, ils vont préférer en rester un aspect... comme je vous le disais, d'historien raisonnable, aspect méthode, c'est-à-dire quels sont les documents dont on dispose, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça. Ce qui, à mon avis, de ce point de vue-là, ils ont raison. Enfin, du point de vue d'un historien, en tout cas, c'est tout à fait compréhensible. Enfin, donc, deuxième problème, je vous le disais, problème de la vérité, deuxième problème, ça va être le problème du rapport des institutions étatiques, justement, à l'histoire. Alors là aussi, en France, on a un petit souci, c'est que y a plein de gens qui vous disent que, enfin, d'une façon plus ou moins caricaturale, que la vérité, c'est un produit du pouvoir. Bon, ça avait été, c'était le sous-titre d'un bouquin publié par Le Monde au sujet de Foucault. Je pense que Foucault n'a jamais écrit ça. Simplement, c'est la conclusion que eux en ont tirée. Et mais bon, ça me semble quand même. Enfin, ça, on passe à côté d'un truc assez évident, c'est que la plupart du temps, les pouvoirs institués se fichent complètement de la vérité, historique ou non. Ce qui les intéresse, c'est quoi ? C'est les croyances de la population, et de savoir si ces croyances menacent les institutions ou pas. Et après, ce qui peut les intéresser, c'est d'essayer de se débrouiller pour que les populations aient des croyances qui soutiennent les pouvoirs établis. Alors, je sais que c'est pas du tout sophistiqué comme théorie, globalement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les pouvoirs nous mentent pour essayer de conserver le pouvoir. Ouais, c'est un peu vieux, mais je crois que c'est pas faux. Alors, ils font pas que ça, évidemment. À tel niveau, par exemple, un État a besoin de connaître la vérité, en termes statistiques, sur différents faits, sur qui est qui fait quoi, etc., etc. Mais ça, c'est pas forcément des vérités qu'ils ont besoin de publier. C'est des choses qu'ils vont garder pour eux, éventuellement, parce que sinon, on se retrouve dans le cadre éventuellement d'un pouvoir qui est complètement hors sol et qui sait plus ce qui se passe. Mais en général, ce genre de pouvoir-là reste pas longtemps en place. Alors bon. Maintenant, évidemment, une fois qu'on a dit ça, on voit évidemment le problème qui se pose, c'est que dans la mesure où l'histoire est enseignée à l'école républicaine, on voit ce qui peut advenir de l'enseignement de l'histoire. Et ce qui va advenir, c'est quoi ? C'est essentiellement, alors ça c'est vieux, hein, ça date du fin 19e, début 20e, c'est le roman national. C'est-à-dire qu'on n'est plus tellement dans l'histoire, on est au contraire dans un mythe qui va être propagé par l'État, parce que il favorise justement ses intérêts politiques. Alors, il y a une bonne définition dans le bouquin donc de Nodin, Chéri et Blanc de ce roman national. Et donc, c'est quoi ? Le roman national consiste à envisager le passé d'un pays, non pas comme un terrain d'analyse historique, mais comme un grand récit romanesque, avec un cadre bien défini, un début, une fin, des héros et des méchants. Il s'agissait alors de faire vibrer le sujet, puis le citoyen, et non de le faire réfléchir, afin qu'il adhère à l'idée d'une France éternelle, toujours unie, toujours déjà là, pour reprendre l'expression de l'historienne Suzanne Citron. C'est ce que les historiens après elle ont désigné sous les vocables de mythe national et plus communément de roman national. Et là, on voit finalement ce que vont faire les historiens de garde, mais ça, je le verrai après une pause musicale, c'est que... Il y a un roman national institué par l'État et par la République, et eux, ils vont essayer de mettre en place un roman national plutôt royaliste et catholique. Voilà, donc on se retrouve après une pause.
Real.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit donc pour sa deuxième partie. Vous venez d'entendre une chanteuse brésilienne qui raconte en substance, enfin qui dit que voilà, que ce n'est pas Herrero Cabral qui a découvert le Brésil, parce qu'il y avait déjà des gens dessus. C'est un petit peu pareil, voilà. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Voilà, il y avait des gens qui vivaient là déjà aussi. Et ça fait partie des mythes nationaux dont on parlait justement, puisque José avait choisi des morceaux en réfléchissant. Et donc, je vous parlais d'un livre qui s'intitule Les historiens de garde, qui a été republié chez Libertalia en 2016. Qui a été écrit donc par William Blanc, Aurore Chéry et Christophe Nodin. Et c'est un livre donc qui, je vous disais ça en première partie, qui décrit comment certains gens se sont prétendus, certaines personnes se prétendent historiennes pour faire passer en quelque sorte l'idée d'un roman national. Et ce roman national, je vous avais dit que au départ il était républicain. Et qui visait, si vous voulez, à fonder la légitimité d'une France éternelle, qui aurait toujours été déjà là, qui existerait depuis Clovis, globalement. Bon, ça n'a aucun sens, hein, d'un point de vue historique, mais peu importe. Comment dire, ce roman national républicain engendrait son opposé, évidemment. C'est-à-dire l'idée que la vraie France n'était pas celle de la République, n'était pas celle de la centralisation de l'État progressive qui aboutissait à la révolution et au pouvoir du peuple, soi-disant, mais que la véritable histoire de France, c'était celle des rois et de l'Église. Alors c'est ce que les auteurs du livre Les historiens de garde décrivent comme la vieille garde, justement. La vieille garde des historiens de garde actuels. Alors, il y a deux noms qui ressortent en particulier, et dont je voudrais vous parler, mais pas seulement, parce qu'il y a toute une petite histoire, justement, de ces usages qui sont un peu médiatiques de l'histoire et qui ont pour but de transmettre une vision complètement nationaliste et catho de la France. Une vision qui a trouvé une espèce d'apothéose avec le nabo, là, Sarkozy, mais qui est encore à l'œuvre aujourd'hui, puisque, évidemment, vous savez ce qui se passe dans les médias et chez nos politiques. Alors, ça commence où, plus ou moins, pour fixer toujours des points de départ un petit peu arbitraires, mais qui sont significatifs. Il semblerait, d'après nos auteurs, que ça commence avec Charles Maurras et Jacques Bainville, Alors Charles Maurras, pour ceux qui ignoreraient l'existence de ce charmant personnage, c'est un des piliers de l'Action française. C'est-à-dire que l'Action française est un mouvement royaliste, anti-Dreyfusard et antisémite. Et un de ses émules, qui s'appelait Jacques Bainville, a plus ou moins fondé ce que les historiens appellent aujourd'hui l'école capétienne. Donc j'imagine que ça vient des Capets, évidemment, donc des rois de France. Et eux ont déjà tenté, dans les années 20, de contourner l'enseignement républicain, qui est incarné par un type qui s'appelle Lavis. C'est assez facile de trouver des œuvres de Lavis, parce qu'il a publié justement une espèce d'histoire de France, et dont aujourd'hui vous pouvez assez facilement trouver les instructions qui étaient données par Lavis aux instituteurs de la Troisième République, et qui disait très très clairement: surtout pas d'histoire analytique, enseignez-leur des grandes figures qui vont les émouvoir et qui vont faire des bons citoyens prêts à mourir pour la patrie. C'est écrit noir sur blanc, c'est au complot. Hein. Il suffit d'aller les lire. Moi, je les ai trouvés dans des manuels scolaires actuels, donc bon, c'est pas caché. C'était clairement un roman national républicain qui visait à former des citoyens. Bon. Et évidemment, ça avait peu de succès en librairie. En revanche, il semblerait que Jacques Bainville, donc, qui était aussi, comme Maurras, était royaliste plutôt, enfin non pas royaliste, vous allez voir, était en tout cas anti-Dreyfusard ou moins antisémite, bah Bainville, lui, il a réussi à avoir des succès de librairie assez énormes. Je crois que il publie un bouquin dans les années 20 et ça se vend à 160 000 exemplaires en moins de 10 ans. Donc gros succès de librairie. Et... bon, évidemment, il reprend certains trucs qu'on retrouvera chez Laurent Deutsch dans les années 2000, à savoir, il s'oppose à l'histoire universitaire, mais alors chez lui, ça prend une autre tournure, parce que dans l'entre-deux-guerres, il y a d'autres, comment dire, d'autres problématiques. C'est que, globalement, il va s'opposer, justement, à l'érudition, mais quoi, à l'érudition allemande, évidemment. C'est un anti-germaniste. Et donc, voilà, il va dire qu'il y a des méthodes allemandes en histoire, donc ça c'est quand même assez génial. C'est comme quand on parle de physique juive, par exemple, si on est nazi. Il n'y a pas de physique juive, il y a la physique, c'est tout. Mais bon, il n'y a pas non plus de méthode historique allemande, si ce n'est pour signifier une origine, mais c'est tout, parce qu'après c'est une méthode universitaire. Et donc, voilà, ce qui gênait ce fameux Bainville, c'était que les universitaires républicains s'appuient sur le modèle de l'érudition allemande afin de promouvoir une histoire nationale. Or, l'Action française rejette les apports méthodologiques et les pratiques d'outre-Rhin, les notes de bas de page, par exemple, comme autant d'innovations germaniques, donc antipatriotiques. Bainville, formé à l'école de la presse, ne dira pas autrement. Il explique préférer la méthode allemande, l'histoire à la manière gréco-latine, le récit œuvre d'art, le sens étymologique du mot grec étant information. Exactement comme l'entend le journalisme d'aujourd'hui. Aussi ne s'appuie-t-il pas sur des sources, mais presque exclusivement sur des travaux de seconde main, donc peu d'études scientifiques, ce qui l'amène forcément à interpréter les événements avec ses réalités contemporaines. C'est aussi l'actualité qui nous permet mieux de saisir des aspects non pas nouveaux, mais éternels de l'histoire. Ça, c'est Bainville qui parle. Donc, vision anachronique revendiquée sur une base nationaliste et anti-germaniste. Et au bout du compte, tout ce que va essayer de faire passer Bainville, enfin, son but réel n'est évidemment pas le progrès de la connaissance historique, mais c'est des buts politiques. Donc l'antigermanisme, je l'ai déjà mentionné, mais aussi des choses telles que la critique de la démocratie, l'apologie des régimes forts dans les années 20. Ça vous donne une petite idée du bonhomme. Il éprouve beaucoup d'admiration pour Mussolini. Un peu plus tard, il sera ami avec Salazar. Et évidemment, son histoire de France, qui se vend si bien, exprime une haine des révolutions pas possibles, une haine des ouvriers, une haine du peuple qui est toujours représenté, enfin une haine du peuple quand il se révolte. Dès qu'il se révolte, il est représenté comme quelque chose d'affreux et d'immonde. Évidemment, il n'aime pas non plus les juifs, même si c'est un peu plus discret chez lui. Quant aux femmes, elles n'apparaissent pas dans l'histoire, comme chacun sait. Évidemment. Donc Bainville... alors lui, il a eu de la chance, entre guillemets, Bainville, contrairement à Maurras, il est mort avant de pouvoir collaborer avec les Allemands, en 36. Et donc il a pu être récupéré en 2012 par certains ministres de Sarkozy, mais j'y reviendrai plus tard. C'est un personnage qui semble relativement important dans cette petite histoire. Voilà, mais alors bon, l'histoire ne s'arrête pas avec Bainville, parce que après Bainville, il y en a d'autres qui arrivent. Alors, ils sont un peu différent. Alors, moi, j'ai appris des tas de choses en lisant ce livre, en citant donc les historiens de garde. C'est que, par exemple, Sacha Guitry avait déjà commencé dans les années 30 à essayer de faire l'apologie d'une histoire de France, pareil, centrée sur les rois, les églises, l'espèce de France éternelle, fantasmée. Sauf que lui, il a employé des moyens beaucoup plus efficaces que les livres. Il avait déjà très bien compris le pouvoir de l'image. Et il est passé par donc le théâtre et le cinéma. Alors, là j'ai mis... Oui, et donc, pareil, un petit peu comme Laurent Deutsch, un peu comme Bainville, ces gens-là ont des problèmes avec la méthode historique, en fait. Et ils ont des problèmes avec les concepts élémentaires que à peu près tout le monde maîtrise quand on n'y réfléchit pas trop. Donc là, je vous cite un passage de Sacha Guitry. Voici l'histoire des Champs-Élysées de 1617 à 1938. La voici véridique, et parfois vraisemblable, car je prétends que ce n'est pas mentir que d'affirmer effrontément des vraisemblances irréfutables. Oui, je revendique le droit absolu de supposer des incidents restés secrets et de conter des aventures dont je n'ai pas trouvé la preuve du contraire. Alors ça, bon, véridique, parfois vraisemblable, car je prétends que ce n'est pas mentir que d'affirmer effrontément des vraisemblances irréfutables. Ici, c'est quelque chose qu'on retrouvera chez Laurent Deutsch un peu plus tard. Et c'est un sophisme complet, en fait. C'est l'idée que si on ne peut pas prouver que c'est faux, alors c'est vrai. Mais en histoire, ça peut donner tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que je pourrais affirmer que les hommes préhistoriques faisaient de la planche à voile sur des matériaux composites qu'on n'a pas retrouvés parce qu'ils se sont décomposés, mais que comme on ne peut pas prouver que c'est faux, bah alors c'est vrai. J'ai le droit de l'imaginer. Bon, on verra que Laurent Deutsch fera un usage, absolument vertigineux de cette possibilité soi-disant logique. Ça va permettre à des gens comme Sacha Guitry, finalement, de jouer tout le temps sur la distinction, de flouter tout le temps la distinction entre la part nécessaire d'interprétation qu'il y a en histoire, voire la part nécessaire d'imagination qu'il y a dans le récit historique, et les faits. Et donc, en brouillant cette limite, ça leur permet aussi de faire passer aussi pas mal d'idées politiques qui sont pas toujours, très progressistes, disons. Alors, mais ça s'est pas arrêté avec Guitry, parce qu'en fait, il y a vraiment toute une espèce d'industrie de l'histoire politisée, populaire et médiatique. Alors, nos auditeurs les plus âgés se souviendront peut-être d'une émission qui est mentionnée là dans le bouquin, qui s'intitulait « La caméra explore le temps », qui a été diffusée entre 1956 et 1966. Et c'est une émission qui regroupait un certain Castelot, André Castelot, Alain Decaux, que des moins vieux connaissent. J'avais lu du Alain Decaux parce qu'il avait fait une histoire de France qui effectivement était centrée essentiellement sur les rois et sur l'activité des rois en France. Donc l'histoire de France, c'est quoi? C'est l'histoire des rois de France. Évidemment, quand on a 8 ans et qu'on lit ça, on est fasciné parce que c'est que des récits, des anecdotes, des choses qui sont héroïsées et agréables à lire, de surcroît, parce que c'est des gens qui souvent ont un certain talent. Faut pas le nier. Donc il y avait Alain Decaux, oui, alors Castelot, je vous disais, ancien vichiste, donc, et directeur de collection chez Perrin. Ah, ça s'est jamais arrangé chez Perrin. Donc à partir de 1947. Ensuite il y a Alain Decaux, donc son confrère à la Tribune, qui à l'époque était considéré comme un progressiste modéré, et un certain Stelio Lorenzi, qui était un réalisateur communiste, et qui était au cœur du projet. Alors, c'est assez intéressant parce que, ces gens-là, ils vont faire une émission à trois, donc, et ça a été, cette émission a eu un très très grand succès. Et donc, le problème, c'est que, en fait, on les a vus assez vite, là encore, comme des espèces de trublions, qui disait la vérité contre le pouvoir. Et donc, ils en ont profité un petit peu, c'est assez logique. Et ils se sont forgés assez vite donc une image de contre-pouvoir historique, là je vous cite le livre Les Historiens de Garde, ce qui amena parfois ces auteurs à verser dans la fantaisie et le sensationnalisme pour mieux se donner l'air de nager à contre-courant. Ainsi, le dernier épisode de la série consacré au Qatar furent condensés de contresens les plus farfelus, faisant des hérétiques méridionaux les victimes d'une colonisation outrancière par des chevaliers du Nord et des inquisiteurs montrés comme des brutes sanguinaires. La mode Qatar était lancée. Le dimanche suivant, des milliers de personnes s'en allaient camper à Montségur, dernier lieu de la résistance Qatar. Alors, ça c'est beau, mais le meilleur est à venir. Le meilleur c'est quoi? Enfin, le meilleur, si j'ose dire. Le meilleur c'est le Puy du Fou. Parce qu'en fait, d'après les auteurs, donc d'après Blanc, Chéri et Naudin, donc dans le bouquin des historiens de garde, le Puy du Fou relève à peu près de la même logique. Même s'il y a, une petite différence. C'est que, bon, vous savez, il y a moins de prétentions historiques. Malgré tout, il y a un message historique qui est passé. Donc je vous lis un petit peu le passage. Pour le Puy du Fou, la donne est tout autre. Imaginé en 1977 par Philippe de Villiers, alors jeune énarque et fils du vice-président du Conseil général de Vendée, le dispositif est à la base une sorte d'écomusée doublée d'un grand spectacle, la Cinécennie, retraçant l'histoire de la Vendée, à travers celle d'une famille, les Maupiliers. Comme chez Bainville, l'histoire est cyclique et montre une Vendée toujours renaissante, jamais vaincue. Et bon, il va développer, donc De Villiers va développer un spectacle à succès dont le but est avant tout de maintenir une identité vendéenne forte, centrée sur le souvenir de la guerre civile de 1793, la détestation du centralisme jacobin et évidemment de la Révolution. Alors là, évidemment, ligne directrice de tous ces trucs-là, de tous ces historiens de garde du passé, entre guillemets, c'est à peu près toujours la même. D'une part, il s'agit de promouvoir un roman national complètement réactionnaire, souvent raciste, parfois antisémite, toujours contre-révolutionnaire, presque toujours catholique aussi. Donc, il s'agit de promouvoir le mythe de la France éternelle. Bon. Et d'autre part, comme les gens de droite sont relativement habiles, il s'agit aussi de gagner beaucoup de fric. Parce que tous ces trucs-là, que ce soit Bainville, que ce soit, que ce soit le Puy du Fou ou autre, c'est des grosses machines à pognon. Et donc, ils ont réussi à allier l'utile à l'agréable, en gagnant tous ces trucs-là. On va faire une petite pause et puis après on va aborder des choses plus contemporaines avec justement le fameux Laurent Deutsch et l'analyse de son cas.
Believe how the story unfurled. I arrived back home and put the telly on, and I became aware of a terrible poll. I carefully looked at the bottom of my shoe and thought to myself, it smells like dog poo. It smells like dog poo.
wash off my shoes in the neighbour's bird trough. Retching and a gagging, I finally get them clear and decide to celebrate with a beer. I set off down the pub across the park. When I arrive, it begins to get dark. My friends say, "Can you smell? I want to sit down with you." And I think to myself, "Oh no, it smells like dog poo! It smells like..."
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième et dernière partie, dans une émission qui est consacrée donc à un livre publié chez Libertalien en 2016, qui s'intitule Les historiens de garde, et qui a été écrit par William Blanc, Aurore Chéry, Christophe Nodin. Donc dans la deuxième partie de l'émission, je vais vous parler un petit peu des proto-historiens de garde, ceux qui ont précédé nos Laurent Deutsch, Stéphane Bern et José Mapran aussi, Philippe de Villiers, qui a écrit des trucs sur le roman de Saint-Louis, le roman de Jeanne d'Arc. Bon, les figures historiques choisies, évidemment, ne sont pas indifférentes. Hein. Il n'allait pas faire le roman de Bakounine, sans doute. Donc, ou le roman de Robespierre, par exemple. Ça non plus, c'est mal. On va voir le cas de Laurent Deutsch. Alors l'analyse du cas Deutsch dans le bouquin des historiens de garde prend une bonne centaine de pages. C'est le plus gros morceau. Moi, j'ai décidé d'inverser un petit peu l'ordre de présentation des choses. Mais je pense qu'ils ont malgré tout bien fait de démonter un peu le truc Deutsch, parce que ça a été un succès monumental. Le type a eu le soutien d'à peu près tout ce qui peut exister en matière médiatique. Et c'est un petit peu un cas d'école aussi pour leur thèse au sujet des historiens de garde, qui sont rarement des historiens, mais qui sont quasiment toujours des politiciens, enfin ou du moins des idéologues. Alors, qui est ce fameux Laurent Deutsch? Alors, moi, je suis complètement ignorant de ce genre de truc, je savais même pas qu'il existait, le gars, avant qu'il publie son livre. Mais, il semble qu'il est comédien, et qu'il est passionné d'histoire. Et en 2009, effectivement, j'avais entendu parler de lui à ce moment-là, il a publié un ouvrage qui s'intitulait Métronome. Et cet ouvrage, alors d'après ce que j'ai vaguement compris, parce que j'ai pas été le voir, c'est un livre qui serait une histoire de Paris à partir des noms des stations de métro. Bon. Pourquoi pas? Et comme le disent les trois historiens qui ont écrit le livre dont je vous parle, là, Blanc, Chéry et Nodin, ils n'ont rien contre le fait que quelqu'un qui n'est pas historien s'empare d'un objet historique et en fasse un peu ce qu'il veut. Par exemple, ils ont l'air de plutôt apprécier les trucs qu'a pu faire Astier dans Kaamelott. Mais parce que justement, Astier n'a aucune prétention à dire la vérité en histoire. Lui, il s'amuse à partir de quelque chose qui est plus ou moins mythique. Et eux, ils y voient plutôt quelque chose d'intéressant pour l'histoire dite sérieuse, parce que c'est aussi par là que la plupart des gens qui ne sont pas historiens rentrent dans l'histoire. Quand on est gosse, c'est par ce genre de truc qu'on va peut-être s'intéresser à l'histoire. Et donc, eux disent « Ah oui, c'est très très bien qu'ils imaginent, qu'ils fassent des romans historiques ». Tant mieux, c'est, enfin, voilà, ils se font plaisir, ils font de mal à personne, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est quand quelqu'un comme Deutsch, qui n'est pas historien de formation, essaye de s'instituer comme une autorité historienne à partir, finalement, de ce que nous, en philosophie, on décrirait comme un argument d'autorité, c'est-à-dire son succès. J'ai vendu beaucoup de livres, donc je dis la vérité. Alors, évidemment, pour beaucoup de journalistes, les choses marchent comme ça. À partir du moment où vous dites la vérité, à partir du moment où vous vendez au-dessus de 50 000. En dessous, vous dites que des bêtises. Maintenant, évidemment, le souci, c'est que en réalité, ça ne marche pas du tout comme ça, c'est évident. Et donc, Deutsch, lui, d'après nos auteurs, prétend partir de l'histoire, mais aboutit à une fiction, sans avertir ses lecteurs de sa démarche, jouant l'ambiguïté. Bon. Et cette fiction, je vous en ai parlé, déjà, c'est qu'une ressucée, c'est qu'un remake du roman national. Donc, comment dire, c'est un retour en force d'une histoire qui va être finalement complètement romancée. Et ça, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas quelque chose qui appartient au XXe siècle, c'est quelque chose qui est contemporain. Je vous disais, Bainville, Jacques Bainville, est de nouveau cité, il a été cité par Fillon il y a quelques années. Bon, on est en plein dans... il faut raconter l'histoire de France, les programmes gauchistes cachent la véritable histoire de France, donc, voilà, bon, en réalité, bon, ils mentent beaucoup sur les programmes. Les programmes de l'histoire sont quand même, au moins jusqu'au collège, toujours très franco-français, et racontent l'histoire de ce qu'on appelle la France. Bon, mais peu importe. Enfin, non, pas peu importe, c'est important, mais il faut le savoir. Alors... Après, la question qu'on peut se poser, c'est, et que se posent donc Blanchéry et Nodin dans les historiens de garde, c'est est-ce que Laurent Deutsch fait de l'histoire ? Après tout, il n'est pas historien, mais il pourrait faire de l'histoire. Donc je vous disais, son discours entretient, le problème c'est qu'il entretient donc la confusion entre histoire et fiction à partir d'un terme. Et ce terme, c'est quoi ? C'est celui d'éclairage. C'est-à-dire, alors là j'ai une petite citation qui est assez rigolote, parce que là encore on voit la confusion intellectuelle du bonhomme. Donc là, je cite le livre. Alors il cite Deutsch dans une émission sur France Inter. Donc ça, c'est Deutsch qui parle. L'idéologie ne doit pas être détruite au nom du fait scientifique. Bon, c'est un peu un combat entre les matérialistes et ceux qui croient à quelque chose d'un petit peu plus idéologique. Si on peut tendre vers le fait scientifique, tant mieux. Surtout si ça accrédite ma chapelle et ce que je pense, mon éclairage de l'histoire. Pour moi, la vérité historique, elle est dans un éclairage. Alors, j'avoue que je ne suis pas sûr de bien comprendre ce qu'il veut dire là-dedans. En gros, le fait historique, c'est bien tant qu'il accrédite ce que je pense. Alors, de ce point de vue-là, bon, c'est pas d'histoire. Ça, c'est autre chose. C'est d'idéologie. Mais c'est que, il faut voir, de ce point de vue-là, que l'éclairage réel de Deutsch, c'est quoi ? C'est celui d'identité nationale. C'est uniquement ça qui va l'intéresser dans l'histoire de France. Et pour lui, l'histoire, c'est un patrimoine national qui nous rassemble et qui nous unit. Alors, il y a des formules qui sont assez mainstream et assez attrape-tout, du genre l'histoire de France, c'est ce qui nous réunit, parce qu'on est là, et qu'on y soit depuis 200 ans ou depuis 10 minutes, c'est pareil, c'est ça qui nous réunit. Alors ça, c'est assez fort, parce que globalement, il est soutenu par pas mal d'identitaires, et on sait bien que celui qui est arrivé depuis 10 minutes, l'histoire de France, il s'en fout. Et que surtout, on va lui reprocher de n'être là que depuis 10 minutes. On va lui dire, ouais, non, mais t'es peut-être français, mais t'es français depuis 10 minutes. Moi, je suis français depuis 200 ans. Alors, comme si les gens vivaient 200 ans, comme si, enfin, bref, ils se confondent, eux et leur famille, mais ça, c'est un classique. Mais à la limite, peu importe, c'est juste une conception démente. Enfin, pas démente, mais nationaliste, en tout cas, de l'identité et de l'appartenance à la nation. Et de ce point de vue-là, en tout cas, si on conçoit l'histoire comme un patrimoine national qui nous rassemble et qui nous unit, ce qu'il faut bien voir, c'est que, je suis pas sûr qu'ils le citent dans leur ouvrage, mais c'est que Deutsch est pas très très loin de quelqu'un comme Barrès, pour qui la France, c'est quoi ? La France, c'est nos cimetières. C'est, en gros, c'est les morts, les glorieux morts, qui ont fait notre pays. Et donc, de ce point de vue-là, c'est Barrès qui va le premier formuler l'idéologie de la terre et du sang. Qu'est-ce qui fait la nationalité ? C'est pas le projet, c'est pas ce que je veux faire alors que je suis sur place, c'est d'où je viens. Et ça, c'est une vision qui est très très répandue aujourd'hui de l'appartenance à la société. C'est le passé, pas le futur, en gros. Et alors, autre chose, donc, le registre, comme je vous disais, de l'éclairage de l'identité nationale chez Laurent Deutsch, et il va aborder ça toujours sous un registre émotionnel. Qui justifie et explique en partie aussi son rejet de l'histoire écrite par l'historien professionnel, sur lesquels il va taper assez régulièrement, en disant que globalement c'est des gens qui sont pas intéressants. Et que lui, il arrive à présenter l'histoire d'une manière qui est quand même vachement plus funky, et qui donne envie de faire de l'histoire. Bon. Là encore, c'est le problème qui se pose du but de l'histoire. Est-ce que vous êtes là pour raconter les choses qui vous arrangent, ou est-ce que vous avez pour but de faire avancer la connaissance historique pour elle-même ? Et donc, globalement, comme il est très très confus, il arrête quand même, malgré cette espèce d'idée d'éclairage, il n'arrête pas de dire qu'il cherche la vérité historique. Alors là aussi, il y a une citation assez géniale où il se réclame du falsificationnisme. Alors, là encore, il est tombé sur un mot qu'il ne comprenait pas bien, le pauvre. Il dit, voilà, Laurent Deutsch, chez Laurent Ruquier, « L'histoire est un mensonge en sursis, c'est le falsificationnisme. » Et donc, expliquant sa démarche, là c'est pas lui, hein, et prenant pour exemple sa théorie selon laquelle le premier cœur de Lutèce se trouverait à Nanterre, il affirme « à d'autres de nous prouver le contraire », se plaçant ainsi dans la controverse historiographique. Donc là, bon, ça veut dire qu'il débat sur le terrain historique, d'une part, et d'autre part, ce qu'on peut remarquer, c'est aussi la concordance avec la citation précédente de Guitry. Donc c'est quoi le falsificationnisme ? C'est une idée qui vient d'un épistémologue, de quelqu'un qui étudiait en gros les méthodes de la connaissance scientifique, qui s'appelait Karl Popper. Et en fait, le falsificationnisme, ce n'est pas du tout l'idée que tout ce que je dis est vrai tant qu'on ne m'a pas réfuté. Ça va plutôt être l'idée qu'on ne peut pas prouver la vérité d'une théorie, que tout ce que l'on peut faire, c'est conserver celles qui n'ont pas été réfutées par des tests expérimentaux. Or bon, de tels tests n'existent pas en histoire. Déjà. Bon. Et dire je suis falsificationniste, c'est vrai tant que j'ai pas été réfuté. Ben, absolument, enfin c'est de la confusion pure et simple. Alors, tout ça, évidemment, pourquoi est-ce qu'il est aussi confus ? Bon, soit il est malhonnête intellectuellement, c'est aussi une option, soit il est incompétent, c'est aussi une option. Moi j'y vois surtout un prétexte pour pouvoir affirmer ce qui lui plaît. C'est-à-dire, bon, ben, voilà, le cœur de Lutèce serait à Nanterre. Bon, pourquoi pas. Il affirme aussi que Jeanne d'Arc aurait été la demi-sœur de Charles VII. Oui, bon, pourquoi pas, si ça lui plaît. Mais alors, un truc assez comique, c'est que Nodin, Blanc et puis Échéry se sont penchés un petit peu sur la méthode employée par Deutsch. Et alors, il cite jamais ses sources, ce qui pour un historien est quand même un peu le péché capital. Donc il les cite pas, ok. Par contre, il les utilise. Et ce qui est très très marrant, c'est qu'en plus, il utilise des sources qui sont souvent conformes à son courant idéologique, la droite nationaliste. Et il va les trier, comment dire, il va ne sélectionner que ce qui est conforme à son idée de la France. Alors, il y a un très très bon exemple sur la Commune, parce que la Commune, évidemment, il déteste ça. Hein. Pour lui, la Commune, c'est quoi ? C'est une espèce de complot du parti de l'anti-France, contrôlé par Marx depuis Londres. Donc, vous avez, bon, ça, il y a une... Donc, il va citer, comment dire, il va dire que les révolutionnaires, enfin, les communards ont essayé de bombarder un monument parisien. Et pour ça, il s'appuie sur une source versaillaise, qui dit exactement le contraire de ce que lui raconte. Donc là, on a quand même un exemple assez typique de la méthode historique de Laurent Deutsch. Alors, quand on lui signale ses erreurs, en général, il corrige un peu après, et il corrige, comment dire, sans contradicteur en face de lui, histoire d'être tranquille pour corriger. Et de ne pas être trop contredit, sans doute aussi. Donc il y a aussi, alors bon, il donne plein d'exemples de la méthode Deutsch. Par exemple, il a adapté son bouquin Métronome à la télé, et il s'est penché sur la période du 5e siècle, qui va du 5e siècle au 10e siècle. Et là, le producteur dit qu'ils se sont appuyés pour cette période entre le 5e donc, et le 10e siècle sur des tableaux donc, et des tentures qui auraient existé. Le souci, c'est que les historiens savent qu'entre le 5e et le 10e siècle, il n'y a pas. Ça manque. On n'a pas ces documents-là. Pareil, ils font des cartes. Alors, ils ont fait une carte de Paris au 8e siècle, dans l'émission de Laurent Deutsch. Bon, le problème, c'est que la première carte de Paris qu'on a conservée, elle date du 16e siècle. Bon, il y a 800 siècles, il y a 800 ans de différence. Une broutille. Alors, qu'est-ce que ça donne, en fait, cette notion d'éclairage qu'on trouve chez Laurent Deutsch ? C'est tout simplement une affabulation idéologiquement droitière, voire d'extrême droite. Alors, je vous renvoie, vous pouvez aussi aller voir le bouquin, donc il y a des exemples, l'exemple du Louvre aussi, où il invente pas mal de choses. L'exemple de Saint-Denis, qui est assez croquignolet, parce que Saint-Denis, il adore, évidemment. C'est un catholique. Et puis, il y a tout ce qu'il raconte sur les révolutions, pour montrer à quel point les révolutions, c'est mal, qu'elles ont été faites par une populace abrutie et stupide, qui aurait dû quand même reconnaître que le roi, c'était vachement bien. Alors voilà, bon, on arrive à la fin. Peut-être une belle citation quand même pour vous montrer un petit peu ce que peut arriver à dire Laurent Deutsch, parce que celle-là, je l'adore, elle est magnifique. Bon, c'est un royaliste, hein, royaliste de gauche, semble-t-il, c'est ce qu'il dit, qui idéalise la monarchie, bon. Et il a quand même pu déclarer au Figaro Télé Magazine que L'histoire de notre pays s'est arrêtée en 1793 à la mort de Louis XVI. Cet événement a marqué la fin de notre civilisation. On a coupé la tête à nos racines et depuis, on les cherche. On a coupé la tête à nos racines. Ça, je pense que ça, c'est de la pensée de haute volée. Voilà. Et dernier point, bah, sachez que quand même, parfois, ça se révèle. Laurent Deutsch a fait une petite émission avec Patrick Buisson, un type qui a été rédacteur en chef de Minute, un machin d'extrême droite, qui a été aussi conseiller de Sarkozy. Et ils ont fait une petite émission sympa pour réhabiliter Louis-Ferdinand Céline, qui en avait bien besoin. Louis-Ferdinand Céline, donc, grand écrivain antisémite français. Voilà, donc, ne lisez pas Laurent Deutsch, c'est de la merde. Par contre, vous pouvez lire le bouquin que j'ai chroniqué, qui est assez rigolo, de William Blanc, Aurore Chéry, Christophe Naudin, Les historiens gardent, chez Libertalia. À la semaine prochaine, dans deux semaines.
Pero no te ofendas, tan solo quiero que tomes tus propias riendas y que tu vida de la vida de otro no dependa.